L'esprit du rivage, légende de la mer, par Pierre-Jacques Elias. Troisième cassette, deuxième face, page 143. Le joyeux lutin Nicole, N-I-C-O-L-E. De Saint-Quay, S-A-I-N-T, trait d'union Q-U-A-Y, à Saint-Briac, S-A-I-N-T, trait d'union B-R-I-A-C, s'étendait autrefois le domaine de Nicole, un lutin farceur qui empruntait la forme d'un marsouin et prenait son plaisir à faire enrager les pêcheurs. On l'appelait de ce nom en souvenir d'un garde-pêche très sévère dont certains prétendaient que l'âme était passée dans le corps du marsouin. Tous les gens de mer s'en méfiaient car ces mauvais tours leur causaient parfois de grands dommages et les mettaient même en péril de leur vie. Nicole venait s'ébattre et dispersait les bancs de poissons. Il se laissait prendre dans les filets au milieu des brèmes dorées et il s'évadait en faisant de larges trouées dans les mailles. Il jouait à faire dans les filins et les amarres des nœuds comme savent en nouer les vieux marins et eux seuls. Ses nageoires étaient des mains. Souvent, il soulevait les ancres et les grappins, faisait sortir à la dérive les bateaux à huîtres pendant que les canots draguaient sur les bancs. On avait beau lui tirer des balles, il avait la peau trop dure. Il se levait sur sa queue et se mettait à rire. Peut-être même parlait-il avec l'accent de Louis-Philippe, qui était notre roi de ce temps. Il lui est arrivé de saisir une ancre et de tirer le bateau dans son sillage pour l'amener au sec ou le jeter sur les rochers. D'autres fois, il l'entraînait au large. Les marins du bord s'agrippaient à l'haussière pour essayer de contrarier ses efforts. Soudain, au moment où les marins allaient de franc cœur, Nicole larguait tout et l'équipage allait tomber pêle-mêle au fond du bateau. À ce jeu-là, plus d'un pêcheur prit un tour de rein. Nicole en fit tant que les pauvres marins s'en furent trouver le recteur de Saint-Cas, S-A-I-N-T, trait d'union C-A-S-T, et le prièrent d'exorcer le mauvais esprit. Le recteur prit son étole, se munit d'eau bénite, monta sur un bateau qui mit à la voile et vint s'ancrer auprès des Ébiens. E-B-I-H-E-N-S. Ce sont des îlots. Deux hommes descendirent dans un canot avec le prêtre. Nicole apparut peu après et d'un violent coup de queue fit chavirer le canot. Mais le recteur parvint à saisir une nageoire, se mit à califourchon sur la bête, lui passa l'étole et l'aspergea d'eau bénite. Le marsouin dut demander grâce. Il siffla son intendant, un petit nain, qui sortit de l'eau et remit au prêtre un parchemin sous saint, S-E-I-N-G, c'est-à-dire avec une signature en bas, un parchemin sous saint, par lequel Nicole s'engageait à laisser en paix les paroissiens de Saint-Cas. On ne le vit plus jamais dans ces parages. Il faut bien dire que s'il y était venu, c'était par la faute des pêcheurs eux-mêmes. Nicole apparut pour la première fois, dit la légende, un jour de la fête de l'Ascension, alors que les bateaux, bravant les fulminations du recteur, étaient allés relever les filets sur le banc de la Horaine. H-O-R-A-I-N-E. Et certains ajoutent qu'il était lui-même un homme maudit et métamorphosé pour être allé à la pêche un dimanche carillonné. Au reste, il n'était pas toujours mauvais. Il avait seulement ses humeurs. Ainsi, il se tenait tranquille au moment de la pêche au maquereau. Personne n'a jamais su pourquoi. On l'a vu aussi ramener des barques au port quand il en avait fait tomber à l'eau les avirons. Même les marsouins ont leur jour d'innocence. Et si Nicole était la métamorphose d'un garde-pêche incorruptible, même les gardes-pêche savent le prix de l'amitié. Si vous demandez ce qu'est devenu le lutin de la mer, les marins d'Erquy, E-R-Q-U-Y, vous diront qu'il a suivi un bateau qui se rendait à Terre-Neuve. Mais les vieux Terre-Neuvas n'ont pas souvenir de l'avoir vu là-bas. Pour moi, je pense que Nicole s'est froissée des procédés du recteur de Saint-Cas qu'il avait pris pour le diable en poisson. C'était peut-être seulement un marsouin folâtre auquel sa mère n'avait pas appris que c'était mal de trouer les filets et de jouer au petit cheval avec les ancres. Mais il était susceptible, ce petit. Il est parti voir si les gens d'ailleurs sont plus disposés que les Bretons à goûter ces bonnes farces. Et bon voyage à Nicole. Page 146. La fée Chalibert. Chalibert. Les deux rives de la Rance, RANCE, sont réunies aujourd'hui par le pont de l'usine marémotrice. Or, l'une des assises de cet ouvrage est un îlot appelé Chalibert, du nom d'une fée qui disposait jadis du passage de la rivière et pouvait même vous mettre le cap sur l'autre monde pour 100 ans lorsque la fantaisie lui en prenait. C'est arrivé au moins une fois, si l'on en croit la mémoire des hommes. Un jour donc, entre deux nuits, un de ces jours qui sont avalés depuis belle lurette dans le sac du temps, deux cortèges de noces se présentèrent sur le rivage de la Rance, à l'endroit dit Jouvente, J-O-U-V-E-N-T-E. Ils se préparaient à gagner Alette, A-L-E-T-H, où quelques saints archevêques devaient unir les deux couples. Le premier était de noble race et arrivait d'un manoir de Pleurtuit, P-L-E-U-R-T-U-I-T, dont il ne reste plus la couleur. Une troupe de gentilshommes, de dames, de pages et de valets richement accoutrés lui faisait un brillant apparat. Quant à l'autre, celui-là était de basse roture, pauvrement suivi de quelques manants vêtus de droguets. Or, le passeur n'était pas là, bien qu'il eût été doublement prévenu. Pendant qu'on l'attendait, apparut soudain une pauvresse en loques et de chair misérable. Elle demandait la charité de cette voix geignarde à laquelle aucun chrétien ne saurait résister sans aventurer son paradis. Aussitôt, la fiancée paysanne fit un signe à son promis. Sans hésiter, le jeune homme remit à la mendiante les quelques liards de son escarcelle. Pour la bonne chance, n'est-ce pas ? Le gentilhomme ne pouvait faire autrement que de tirer sa bourse d'or. Mais au moment où il la tendait à la mendiante, sa fiancée lui poussa le bras si brusquement que la bourse tomba dans l'eau. La demoiselle riait encore quand le passeur arriva. Je n'ai pas pu savoir, au bourg de Lannehelin, L-A-N-H-E-L-I-N, où la légende me fut contée, pourquoi ce passeur sépara les deux couples. Pourquoi il embarqua d'abord la fille noble et le gars manant. Mais j'ai confiance en vous pour en trouver la raison. Vous devinerez aussi pourquoi il ne prit que deux passagers quand je vous aurai dit que la barque, à peine chargée de ces deux-là, se mit à cingler d'elle-même en direction du large, poussée par un énorme nuage venteux qui avait la forme de la pauvresse multipliée par 1100. Et tous les autres furent laissés sur la rive. Mais la pauvresse était toujours là, sur le rocher assise, et dans la paume, les quelques liards du paysan. La barque disparut, elle se mit à parler. « Je suis, dit-elle, la fée Chalibert. Je rendrai à chacun la monnaie de sa pièce ou la pièce de sa monnaie. Et vous serez tous là quand je paierai mon dû. Il faudra seulement que vous attendiez un peu. » Et là-dessus, elle se fondit dans l'air sans l'épaissir le moindrement. Ils attendirent 100 ans tout juste. Grâce au pouvoir qu'elle avait, la fée les garda tous en vie. La manante, le gentilhomme, et tous ceux qui se trouvaient dans les deux cortèges, y compris les chiens des seigneurs et les poux des roturiers. Mais ils vieillissaient à la façon de tous les êtres vivants, et ils subissaient les mêmes disgrâces. Ce fut donc un étrange rassemblement de boitants, de toussants, de tremblants, de gémissants et de marmottants, qui se fit devant l'îlot Chalibert, à l'endroit dit Jouvente, quand la fée les fit prévenir de se retrouver tous ensemble au bout de 100 ans. Lorsqu'il ne manqua plus personne au rendez-vous, la barque du passeur se montra sur l'estuaire de la Rance. Sans voile ni rame, elle approcha du débarcadère où se trouvaient les vieillards. Assise à bord, il y avait la fiancée demoiselle et le fiancé Manant dans leurs habits de noces, le corps et le visage aussi jeunes tels qu'ils étaient partis depuis un siècle. Ils descendirent sur le sable, bien étonnés de ne trouver que des centenaires pour les accueillir. Alors la fée Chalibert dit au vieux gentilhomme « Je vous rends votre femme, et à la jeune demoiselle, voici votre mari. » Mais le cœur de la demoiselle était sec. Elle ne reconnut pas le vieillard ou ne voulut pas le reconnaître, tandis que lui la reconnaissait bien. Ils moururent tous les deux sur le coup, elle de dépit et lui de déception. La fée Chalibert dit ensuite au Manant « Voici votre femme » et à la vieille paysanne « Je vous rends votre mari ». La vieille s'avança vers le jeune homme qui lui sourit en ouvrant les bras. Mais la fée la poussa brusquement dans la Rance et aussitôt on vit le fiancé plonger dans la rivière pour en retirer sa vieille promise. L'épreuve d'amour était donc faite et l'eau de la Rance au surplus rendit ses 20 ans à la fiancée. Elle en ressortit plus belle que jamais. Il ne restait à la fée Chalibert qu'à faire don aux jeunes gens du manoir noble de Pleurtuis, désormais sans maître, et à laisser mourir enfin les gens des deux cortèges qu'il avait bien mérités. Mais si vous traversez la Rance, ayez le cœur sincère et miséricordieux, sous peine d'appareiller pour 100 ans vers un pays qui n'a pas de nom. Page 150. L'or de chat, L'OR, plus loin DE, plus loin CHAT. Au pays de Saint-Malo, SAINT, trait d'union MALO, il y avait naguère plus de fées dans la mer et sur les grèves qu'on ne comptait de bergères à garder les moutons dans les landes et sur les caps. Si j'ai bien compris la leçon des vieilles légendes, ce sont ces fées malouines, un malouin c'est un habitant de Saint-Malo, une malouine une habitante de Saint-Malo, ce sont ces fées malouines, dis-je, qui ont légué aux filles de l'endroit le goût des belles robes. Les rubans d'argent clair qui brillent à la surface des eaux de la baie, dans le calme qui suit les tempêtes, ces rubans qu'on nomme « Santes de la Vierge » ont d'abord été les longues traînes des manteaux merveilleux dont aimaient à se pouiller les dames de la mer. Mais ces coquettes, comme vous l'allez voir, n'avaient pas trop de méchanceté. Un soir de lune, sur les miels de Paramé, P-A-R-A-M-E accent aigu, une troupe de fées se livrait à la danse ronde qui est leur passe-temps favori depuis toujours. Il arriva que 12 jeunes gens étaient en fête la même nuit. Quand ils furent un peu chauds de boire, une folie leur monta dans la tête. Ils décidèrent d'aller inviter à la contredanse, pharaons qu'ils étaient, les belles fées des grèves. Celles-ci ne crurent pas devoir refuser. Une fée est femme et toujours secrètement flattée de la recherche des hommes. Mais au cours de la danse, qui donc étaient les sonneurs, elles s'aperçurent que les garçons avaient le souffle court et les jambes de laine. Alors elles entrèrent en fureur. D'un coup de leur baguette, elles changèrent les malappris en 6 gros matous noirs et 6 chattes blanches. Doit-on croire que dans la douzaine de jeunes gens, il y avait la moitié de filles ? La légende ne le dit pas clairement. Si c'était vrai, cela montrerait aussi que les fées sont jalouses. Mais quand elles virent les pauvres animaux miauler de détresse, en tournant autour de leur queue, la bonté naturelle des fées de Saint-Malo leur attendrit le cœur. Elles promirent au pharaon de les rétablir dans leur forme première, aussitôt qu'ils auraient filé pour chacune d'elles un manteau d'or et une robe d'argent tissée dans le seul mica de la grève. La tâche n'eût pas été longue ni difficile, car des yeux de chat eussent au fait de trier, au long du sable étincelant sous la lune, les milliers de miroirs blancs et jaunes dont ils levaient lever les habillements des dames de la mer, mais les fées leur précisèrent qu'ils ne pourraient filer que pendant le temps où les 12 coups de minuit sonneraient à Saint-Malo. Les 6 matous et les 6 chattes se mirent au travail sans attendre. Chaque nuit, entre le premier et le 12e son de cloche, un ronflement s'élevait sur les grèves, doux et régulier. Ceux qui marchaient de ce côté pouvaient voir à certains endroits des coulées d'or et d'argent comme si l'eau des sables ruisselait de paillettes. Sous leur peau de chat, c'étaient les 12 malouins, peut-être 6 malouines, qui filaient à perdre haleine l'écaille des micas. Depuis ce temps, quand un minet somnole auprès de l'âtre et ronronne assis sur sa queue, on dit qu'il file son rouet. Et si les filles de la maison le prennent volontiers sur leurs genoux et le caressent à main douce, c'est sans doute qu'elles en attendent une robe d'argent et un manteau d'or. Lorsque toutes les fées furent habillées de pied en cap, on dit qu'elles frappèrent les chats de leurs baguettes et en refirent des humains. On ne dit pas s'ils retrouvèrent leurs amis et leurs parents, ou si plusieurs siècles avaient passé sur leur tête. M'est avis qu'ils se gardèrent désormais d'aller sur la grève quand ils étaient chauds de boire et même sans avoir bu. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est très rare de voir de vrais chats s'égarer sur le sable de mer. À Saint-Malo, pourtant, Argent de chat est resté le nom du mica gris. Quand ce mica s'allume d'un reflet blond, il devient l'or de chat dont se tissait jadis le manteau d'apparat des dames de la mer. Page 153. La forêt de Sissi, SCI2SY. Il y a eu un temps où le cap Fréhel, F-R-E accent aigu H-E-L, était relié par une droite route à la ville d'Avranches, A-V-R-A-N-C-H-E-S, en Normandie. Le juif errant y a tracé son chemin et s'est étonné de l'avoir disparu 1000 ans après. Du mont Saint-Michel, qui était dans les terres, on pouvait marcher à pied sec jusqu'aux îles Chauset, C-H-A-U-S-E-Y, qui n'étaient pas des îles. Entre les deux s'étendait une ville énorme, bâtie sur 300 collines qui sont maintenant 300 récifs. Une autre ville, entre Cézembre, C-E-Z-E-M-B-R-E, et Saint-Malo, descendit aux abîmes par la rupture d'une digue au cours d'une guerre contre Corseul, C-O-R-S-E-U-L. Ce n'était pas la seule digue du littoral entre Granville et Erquy, Granville G-R-A-N-V-I-2-L-E, Erquy E-R-Q-U-Y. Tout un rempart de murs et d'écluses défendait contre la mer de puissantes villes dont il ne reste que le nom. Elles étaient séparées les unes des autres par une forêt profonde hantée d'animaux féroces. C'était la forêt de Sissi. L'eau a tout recouvert. Quand la mer est calme et claire le temps, les marins penchés à l'avant des barques voient défiler sous eux, dans les profondes baies, des toits, des clochers, des murailles et des troncs d'arbres nus. Ce n'est pas toujours la force de la mer qui fit rompre les digues, mais la folie ou la traîtrise des hommes. Certaines écluses furent ouvertes par de mauvais princes. Et de bons princes, parfois, ruinèrent volontairement leur ville trop dissolue en appelant sur elle une malédiction du ciel. Ainsi fit le roi de Gardenne, Gardayne, la mirable cité voisine de Saint-Malo, comme il est dit au roman d'Aquin, A-Q-U-I-N. Vers l'ouest de la forêt s'élevait la ville de Nasado, N-A-S-A-D-O. Elle restera célèbre à jamais par la beauté de ses filles. Tant elles avaient la peau fine et la chair transparente que l'on pouvait voir le vin descendre dans leur gorge quand elles buvaient. Pour ce trait sans pareil, on appelait ces femmes les belles peaux. Les hommes se perdaient à leur faire la cour, spécialement les soldats qui étaient nombreux dans la ville et dont les trois quarts manquaient à l'appel. À cause de ces désordres, les chefs de guerre maudirent Nasado qui fut englouti sous la mer. D'autres disent que sa perte lui vint de Gargantua lui-même. Le géant y avait fait halte avec son armée. Au matin, il sortit de la ville, mais tout seul. Ses soldats s'étaient attardés auprès des belles peaux. À grands cris, il les appela sans obtenir aucune réponse. Alors il jeta sa malédiction sur Nasado et la mer la recouvrit sur ses talons. Au fond de la baie d'Erki repose la ville des filles transparentes. Dans la forêt de Sissi, une grande clairière abrita, dit-on, l'oratoire de Saint Colomban, C-O-L-O-M-B-A-N. Quand il fut mort, de nombreux pèlerins vinrent sur son tombeau pour demander ses grâces. Ils lui bâtirent une église dans la forêt, mais Satan s'irrita de leur dévotion qui les tenait en paix. Il imagina de leur envoyer des nuées de corbeaux. Dès lors, les pauvres disciples de Saint Colomban furent assourdis de croassements sans fin. Ils ne s'entendaient plus et ne pouvaient à aucun moment se recueillir pour la prière. Pour pouvoir célébrer les saints offices, il fallut établir une nombreuse garde d'hommes qui avaient pour mission de tenir les corbeaux en respect avec des pierres et des bâtons. Mais un jour, les pauvres gardiens eurent si forte affaire qu'ils s'endormirent, épuisés. Les corbeaux envahirent la clairière et s'abattirent sur l'église en vol si épais que toute la nef résonna de leur croassement. Le prêtre qui était à l'autel et se préparait à élever l'hostie en perdit la mémoire des paroles saintes. Transporté de colère et malgré lui, il entendit sa voix qui maudissait les bêtes sataniques. À l'instant même, un ouragan se déchaîna sur la forêt, disloquant et ruinant le sanctuaire de Saint Colomban, tandis que les flots de la mer balayaient les arbres de Sissi et s'établissaient sur une nouvelle portion de terre où ils sont restés depuis. Sur le ras de Saint, au crépuscule, apparaît parfois un bateau qui navigue sans sillage, toute voile dehors, contre vents et marées. Il n'a pas d'autre équipage qu'un seul homme, impassible à l'arrière, qui tient le gouvernail. C'est l'Ankou marin, le premier noyé de l'année. Des cris, des appels, une immense plainte escorte son navire qui est à la fois très près et très loin. Personne jamais n'a pu l'aborder. Est-ce la barque des morts? Nous avons terminé avec la dernière légende. Et maintenant, comme je te l'ai annoncé au début de la première cassette, je voudrais te dire la préface, écrite par Pierre-Jacques Elias. Les légendes et les contes populaires sont des créations anonymes, collectives, incessamment renouvelées, enrichies de variantes successives et par lesquelles nos ancêtres, lointains ou récents, donnaient libre cours à leur imagination pour tenter d'éclairer leurs fantasmes et de trouver un sens à leur destin, tout en procédant à la décantation de leur expérience et à la recherche de règles de vie susceptibles de contenter leurs aspirations. C'est pourquoi leurs inventions, oralement transmises pendant des siècles, toujours revues et corrigées à la lumière d'événements nouveaux, nous touchent encore plus vivement que les œuvres figées de l'écriture. Un tel folklore ne peut vivre qu'en s'altérant, en prenant le sang neuf des variantes, ou même en se nourrissant d'autres fables exemplaires pour les fondre dans le corps primitif. Dès qu'il ne s'alimente plus, il meurt. Mais entre-temps, il arrive qu'il ait donné naissance à de nouveaux thèmes merveilleux. C'est pourquoi on n'en finit jamais de collecter la matière qui en subsiste et qui ne représente en tout état de cause qu'une infime partie de ce qui s'est perdu en chemin. Il est malaisé de définir les domaines respectifs de la légende et du conte. Ils se contaminent mutuellement, passent de l'un à l'autre par d'insensibles transitions. Il semble cependant que le conte soit essentiellement voyageur, même s'il arrive que l'on puisse déterminer son pays de naissance, tandis que la légende est généralement assignée à un lieu, même si elle se fait transporter ailleurs par emprunt et au prix de certains aménagements locaux. Les routes de terre et de mer n'ont cessé, pendant des siècles, de véhiculer cette énorme matière, la mer étant peut-être plus favorable aux légendes qu'aux contes, à cause de son immensité sans bornes, de ses mystères, de ses dangers et du jeu plus impressionnant des éléments naturels qui tiennent toujours l'homme en échec. La Bretagne, de par sa situation géographique et l'obscurité de sa haute histoire, a fait éclore de très nombreuses légendes de la mer, dont certaines se sont épanouies en cycles. On connaît le rôle de l'océan dans les aventures celtiques, les navigations entreprises à la recherche des paradis de la mer, des îles fortunées, d'un autre monde en dérive, au large, vers lequel on s'embarque dans certains lieux armoricains qui ne sont pas toujours des ports. C'est l'Anaon, A-N-A-O-N. Le monde des morts, dont la légende cherche à pénétrer le mystère et dont elle reconnaît les signes dans certains phénomènes qui n'ont pas le don de frapper le commun des mortels. La fabulation a connu son âge d'or pendant le règne de la voile et du vent. Sans tarir tout à fait, elle a subi une baisse considérable dès l'avènement des navires à machines. Les vaisseaux fantômes et les barques de nuit se sont faits aussi rares que les îles inconnues. Or, tant que l'homme ne sera pas totalement maître des mers, et nous savons que ce n'est pas demain la veille, il se déclenchera toujours quelque part des drames inexplicables, générateurs de légendes dont nos petits-enfants auront peut-être la primeur. Il faut du temps pour décanter le merveilleux. La haute mer, cependant, est un champ légendaire moins fertile que les côtes. Comment s'en étonner ? C'est à l'approche des rivages que se produisent le plus souvent les catastrophes qui frappent les imaginations. Et c'est là que se déroule l'incessant combat entre la terre et l'eau salée, celle-ci toujours triomphante et annexant à son domaine, à coups de raz-de-marée, les villes englouties, dont elle ne daigne restituer que le son des cloches. Il y a d'abord les écueils redoutables qui défendent les approches de Havre et auxquels on a donné des noms de sirènes, de sorcières, de gouges, de fées ou d'animaux hurleurs. Il y a les grottes, les excavations, les enfers dont on fait les demeures de surhumaines créatures, les pointes déchiquetées et polies en forme de monstres pétrifiés auxquels on forge une histoire à la mesure de leur apparence. Il y a les naufrages, survenus dans d'apocalyptiques tourmentes et qui ont peuplé certains lieux d'âmes en détresse et de revenants qu'il faut conjurer. Il y a les incursions des flottes ennemies, les razzias, les enlèvements déplorés par des complaintes sans fin. Il y a enfin, et sans chercher plus loin, les tempêtes énormes où se déchaînent les sept vents de la rose et qui peuplent certaines nuits de fanfares d'un crépuscule de dieux ou de démons. Cela ne suffit-il pas à nourrir dans les esprits d'étranges ferments surréalistes? Surtout quand les riverains sont des paysans qui détestent d'instinct la mer et lui tournent volontiers le dos pour se rassurer à genoux dans leurs champs. Pour ma part, c'est de ces paysans-là et non pas des marins que j'ai recueilli les plus nombreux échos du domaine légendaire. À qui prétendrait que le temps des légendes est révolu, il faudrait répéter qu'il s'en crée encore tous les jours, bien qu'on ne les reconnaisse pas sur le champ, puisqu'elles n'en sont encore qu'à leur naissance ou leur renaissance. Le temps d'une vie est trop court pour qu'elle vienne à maturité, mais l'esprit humain est essentiellement porté vers le mythe, dont la masse des légendes n'est pas autre chose que la petite monnaie. Voici maintenant une introduction écrite par je ne sais qui à ce livre « L'esprit du rivage ». Cette introduction est intitulée « Le pays des hommes qui vont sur la mer ». Il faudrait revivre la longue marche des Celtes depuis le cœur de l'Asie vers le couchant et imaginer ce jour où le soleil ne disparut pas entre deux collines, mais fut englouti dans cette vaste étendue d'eau mouvante et salée pour comprendre ce pays où finit la terre, aujourd'hui la Bretagne. L'Armorique, le pays face à la mer, et le pays des hommes qui vont sur la mer, c'est le bout du vieux continent, le dernier bras de terre habitable qui plonge dans l'océan. C'est aussi le rivage d'un autre univers qui couvre plus des 3/5 de la surface du globe. Royaume du mythe et de la légende, empire mouvant où se situa longtemps le domaine des morts, des enfers et des démons maléfiques. Une très vieille montagne. Le massif armoricain fut formé lors d'un plissement hercynien, H-E-R-C-Y-N-I-E-N, durant l'ère primaire, alors que la France était recouverte par les eaux. Depuis environ 500 millions d'années, le lent travail de l'érosion a usé la roche, granit ou grès, et a baissé les sommets à des altitudes moyennes au-dessous de 400 mètres. L'aridité des crêtes, la profondeur de certaines vallées, parfois véritables gorges où disparaissent les rivières, la pique des falaises et la solitude des caps qui surgissent de l'océan témoignent encore de ces anciennes montagnes. La beauté sauvage de ces paysages contraste avec l'ondulation des plateaux et la fraîcheur des rivières qui descendent doucement vers la mer, découvrant de larges baies de sable fin ou de calmes estuaires bercés par les marées. Les premiers armoricains. On a retrouvé les traces d'une population remontant à 5000 ans avant Jésus-Christ. Malheureusement, par suite de nombreux phénomènes d'effondrement, les vestiges de ces premiers habitants de l'Armorique ont presque totalement disparu sous les eaux. Au début de l'époque néolithique, N-E accent aigu O-L-I-T-H-I-Q-U-E, apparaît un peuple originaire de la Méditerranée. Il apporte une religion, des coutumes funéraires nouvelles et couvre la péninsule de mégalithes, M-E accent aigu G-A-L-I-T-H-E-S, dont nous gardons de nombreuses traces. Menhir, pierre longue, dolmen, table de pierre, tumulus et allée couverte. Les alignements de la région de Karnak atteignent des dimensions gigantesques et comptent à eux seuls près de 5000 pierres dressées. Temple du soleil couchant ou lieu d'embarquement des défunts vers l'au-delà, repères astronomiques ou monuments commémoratifs, ces vestiges ont résisté au temps pour témoigner d'une fascinante et mystérieuse civilisation païenne. l'âge du bronze. Des navires viennent de Méditerranée chercher l'étain de Bretagne. Les côtes du Morbihan prennent un rôle essentiel dans les échanges maritimes du monde antique. 1000 ans avant Jésus-Christ, les Celtes commencent à s'implanter à l'est de l'Armorique et créent un trafic avec les Curiosolites. Parallèlement, les Ossismes dans le Finistère, les Namnètes à l'embouchure de la Loire, développent de brillantes cités. Les Vénètes, les hommes du Morbihan, sont alors les maîtres du commerce de l'étain. La conquête romaine. En 57 avant Jésus-Christ, les troupes de Jules César envahissent la péninsule et soumettent les nations armoricaines à l'autorité du peuple romain. L'année suivante, une révolte éclate sous la direction des Vénètes. Leurs lourdes nefs, immobilisées par un calme plat, subissent un rude combat au large de l'entrée du golfe du Morbihan, combat qui se solde par la destruction de l'escadre gauloise. À titre d'exemple, César fait exécuter tous les membres du Sénat des Vénètes. L'activité maritime du peuple le plus puissant d'Armor s'effondre. Pendant 4 siècles, la civilisation romaine accomplit son œuvre, c'est la fameuse Pax Romana qui dure jusqu'aux invasions barbares. L'Armor devient la Bretagne. Fuyant les Saxons et les Angles, des groupes celtes de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, commencent à débarquer au 5e siècle dans la presqu'île armoricaine, alors abandonnée par les Romains. L'émigration se poursuit pendant plus de 200 ans, durant lesquels les Bretons implantent leurs coutumes, leur langue et évangélisent le pays, lui donnant pour nom Petite-Bretagne et par la suite Bretagne tout simplement. Époque mal connue où de pieux personnages venus des monastères du pays de Galles, la Cambrie, missionnaires itinérants du christianisme celtique, apportent aux exilés le réconfort de leur foi et crée des paroisses dont ils deviennent les chefs. Ce sont les premiers recteurs. Leurs noms sont fixés dans les noms de lieux bretons. Coff, Malo, Gildas, Brieux, Éderne. Beaucoup patronnent encore aujourd'hui les anciens évêchés de Bretagne. Certains sont entrés dans la légende. Souvenir de ces premières communautés, les préfixes plou, plé, plot, plu désignent les paroisses, les traits, une subdivision, et les lannes, l'ermitage. Le duché de Bretagne. En 799, Charlemagne pense avoir soumis les Bretons, mais ce peuple reste indomptable. Son successeur, Louis le Pieux, fait duc de Bretagne le célèbre nommé Noé, N-O-M-E accent aigu, N-O-E tréma. Celui-ci se retourne contre Charles le Chauve, remporte la victoire de Ballon et, fort de son indépendance politique, rassemble le pays sous son autorité souveraine. Le royaume s'agrandit vers l'est, de la Sarthe, du Maine et du Cotentin. Ici commence véritablement l'histoire du duché de Bretagne qui durera plus de 6 siècles. Après les grandes invasions normandes au début du Xe siècle, où le pays est mis à sac, les trésors des abbayes et des cathédrales sont pillés. Alain Barbeforte chasse l'envahisseur et devient duc de Bretagne. 4 siècles de guerre. Objet de convoitise entre la France et l'Angleterre, la Bretagne féodale devient pendant 400 années le lieu d'affrontement des deux grandes puissances mondiales. C'est une période de désordre et de misère qui se prolonge jusqu'à la fin du XIVe siècle. Les comtes de Bretagne doivent reconnaître la suzeraineté des ducs de Normandie, puis des Plantagenets d'Angleterre. Un siècle plus tranquille s'écoule jusqu'en 1341, pendant lequel se succèdent, de père en fils, 4 ducs capétiens qui rendent hommage au roi de France. À la mort de Jean III, dernier duc héritier, commence la guerre de succession de Bretagne qui s'inscrit dans la guerre de Cent Ans. Deux neveux, Jeanne de Penthièvre, soutenue par la France, et son frère Jean de Montfort, allié aux Anglais, se disputent le duché. Ces 24 années de guerre et de grande misère prennent fin avec le traité de Guérande, signé en 1365 à l'issue de la bataille d'Auray. Charles de Blois, mari de Jeanne de Penthièvre, est tué et Duguesclin fait prisonnier. Les Montfort prennent alors la direction des affaires bretonnes. C'est la période la plus heureuse d'une prospérité inattendue. Saint-Malo, Morlaix, Pinmar, Nantes développent leur commerce maritime. Les cités reconstruisent leurs remparts, les châteaux, les églises, les chapelles se multiplient. Mais après avoir fait reconnaître leur droit de succession de ses filles, le duc François II entre dans la coalition féodale contre la régente de France, Anne de Beaujeu. Les Bretons sont battus à Saint-Aubin-du-Cormier en 1488 et le duc doit promettre de ne marier ses filles qu'avec le consentement du roi de France. Duchesse et reine, le traité d'union. À sa mort, la petite duchesse Anne n'a que 12 ans. Les troupes de la Trémouille menacent le duché. Anne accepte d'épouser Charles VIII de France en 1491. Elle devient ainsi reine de France. Puis elle s'unit avec le nouvel héritier du trône, Louis XII. Sa fille, Claude, lui succède et par son mariage avec François Ier, devient elle aussi reine de France. Son règne marque la fin de l'indépendance bretonne. Le traité d'union perpétuelle de la Bretagne à la France est signé le 4 août 1532. La Bretagne reste autonome, mais le duché ne sera jamais rétabli. Une page de l'histoire est tournée. La Bretagne française. Désormais province de France, la Bretagne n'en garde pas moins son désir d'indépendance et son esprit de révolte. Le soulèvement du duc de Mercœur pendant la guerre de la Ligue au XVIe siècle, la révolte dite du papier timbré au XVIIe siècle, la naissance de la chouannerie au moment des lois contre les prêtres et de la conscription, autant de faits qui marquent la lutte de la Bretagne pour conserver ses libertés et ses traditions propres. C'est cette même conviction qui entraîne sa large participation à la guerre de 1914 et sa résistance farouche à l'occupation nazie. La fondation du Parti national breton en 1930, le mouvement d'organisation de la Bretagne, confirme cette volonté de donner ses droits d'existence au particularisme de ce pays. L'Argoat, A-R-G-O-A-T, et l'Armor, A-R-M-O-R. La Bretagne présente deux visages où le mode de vie et les traditions diffèrent. L'Argoat, le pays du bois, désigne l'intérieur, et l'Armor, le pays de la mer, forme la région côtière. Le breton. La subsistance de la langue bretonne, couramment employée dans la partie occidentale de la Bretagne, a donné lieu à une distinction entre deux contrées. À l'est, la Haute-Bretagne, ou pays gallo, où l'on parle français, et à l'ouest, la Basse-Bretagne, où l'on parle encore breton. Fin de la deuxième face de la troisième et dernière cassette de L'Esprit du Rivage, Légende de la mer, par Pierre Jacques Elias.